Thank you. Sur FM avec Jean-Marc Gélin.
Et oui, Just in Time, c'est justement le morceau, le titre du morceau qu'on vient d'entendre. Chères auditrices et auditeurs d'Aligre FM, on est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. C'est un petit peu, allez, on va dire que c'est l'épisode 2 de la saison 2 de Jazzland. Alors, on vous souhaite encore une fois une excellente année. Alors vous savez, nos invités aujourd'hui, ce sont deux musiciens. L'un est batteur, il n'est pas encore dans le studio, mais il ne va pas tarder à arriver. Et l'autre est saxophoniste. Qui est à côté de moi, des musiciens qui font de la poésie ou du dessin avec le jazz. Et il y a quelqu'un, je ne veux pas plomber l'ambiance, surtout pas, qui nous a quittés il y a quelques semaines de ça, enfin toute fin d'année, qui lui faisait le contraire. Il faisait du jazz avec les mots. On voudrait lui dédier cette émission aujourd'hui, c'était Francis Marmande, dont les lecteurs du Monde ont dû certainement apprécier sa prose. Eh bien, à défaut de passer un Charlie Haddon, puisqu'il était contrebassiste, on a invité un grand saxophoniste, et je suis sûr que là où il est, Francis Marmande serait heureux de nous entendre. En tout cas, on le salue de là où nous sommes. Voilà. Donc je disais que nous avons la chance d'avoir sur le plateau des musiciens qui font de la poésie, du dessin avec le jazz. Mon invité de première partie, vous venez de l'entendre, il est saxophoniste. Ce n'est pas Sonny Rollins hein, que vous avez entendu. j'ai laissé dire son nom.
Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs, je m'appelle Jean-Jacques Elanguet, voilà.
Jean-Jacques Elanguet, on pourrait dire aussi Jean-Jacques élégant tellement, mais vous verrez ça sur les réseaux.
Ouais, j'ai pas mes gants aujourd'hui, sans les gants. Hein.
Il est Elanguet sans les gants, voilà, élégant sans les gants. Mais oui, mais aussi classe que sa propre musique telle que vous venez de l'entendre. Jean-Jacques Elanguet, mais vous étiez où? Ça fait tout le monde sur la scène hexagonale connaît votre immense talent, mais on vous entend très peu, finalement.
Oh, ben c'est parce que je voudrais me faire désirer, donc j'ai pas à apparaître comme ça. J'ai pas à apparaître tous les quatre matins. Bon, quand je reviens, là, en ce moment, je reviens avec un nouveau propos, et dans quelques mois, un autre nouveau propos. Donc, ça participe du reculer pour mieux sauter. Voilà. J'ai toujours été là, en fait. J'ai jamais arrêté. Oui, mais oui. On ne me voit pas forcément ici et là. Ça dépend aussi des programmateurs.
Oui, voilà, bien sûr.
C'est ça.
Bien sûr. Mais aussi, les programmateurs, ils sont ainsi connectés à l'actualité musicale, souvent.
Oui.
C'est souvent promotionnel. On peut le regretter, mais enfin, c'est un peu comme ça. Là, en l'occurrence, ce qu'on vient d'entendre, c'est donc Just in Time, comme je l'ai dit, de l'album Chads of Ouida.
Oui.
Mais album qui a été enregistré
Il y a quelques années déjà.
Hein, 2018.
Voilà, 2018. Voilà, effectivement, il a été enregistré à ce moment-là avec trois musiciens de renom, en fait, des confrères très, 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 que j'apprécie particulièrement, à la batterie Simon Goubert, au piano Alain Jean-Marie. Et à la contrebasse, Manu Marches. D'ailleurs, nous donnons un concert bientôt.
Le 14, hein, voilà. N'hésitez pas à l'annoncer.
Voilà, ça sera au Sunside à Paris. Voilà, donc ça fait une petite actualité. Pour ceux qui ne me voient pas, ils ne m'entendent pas, pourquoi pas venir là? C'est déjà un premier pas.
Oui, ceci étant, vous êtes quand même un habitué de certains clubs de jazz de la rue des Lombards, quand même.
Oui, bien sûr.
Quand je vous dis que vous faites rare au niveau de la production discographique.
Ça, c'est vrai. Ouais, j'avoue que je n'ai pas été prolifique là-dedans. Pourquoi ? Parce que, bon, moi, je ne sors pas des disques pour faire de l'actualité. Je sors un disque pour dire quelque chose. Voilà, donc, des fois, je peux mettre des mi-douzaine d'années, 6 ans, des fois même 10 ans. Là, ça fait presque, sous mon nom, ça faisait presque 10 ans que je n'avais pas fait d'album. Voilà.
Alors, sachant que vous avez joué avec
Tony Allen, par exemple.
Des gens qui, malheureusement, ont disparu. Mais voilà,
par exemple, Tony Allen ou d'autres. Hein,
Tom McClung,
voilà, super pianiste. On a fait un disque ensemble.
Regretté pianiste,
mais de talent. Hein, quelqu'un vraiment, et puis humainement, de très, voilà, paix à son âme. Je le salue. Où que tu sois, Tom, je te salue avec vraiment beaucoup de respect. Et ça a été pour moi une expérience particulière que de jouer avec lui, aussi bien sur le plan humain que sur le plan musical, j'ai beaucoup appris. J'ai appris énormément de choses. En l'espace de 3-4 ans, on a joué de la musique tout le temps. On a joué sans arrêt, enregistré, joué. Donc c'était super.
Mais alors, je reviens à la... Chez la Vuida,
oui.
Pourquoi le ressortir maintenant?
Pourquoi le ressortir maintenant? Vous savez, c'est un peu comme...
Mais en même temps, c'est bien de donner une deuxième vie à, des, voilà. à certains albums.
Parce que, en fait, je vous explique. Donc, dans mon désert de non-production d'albums, je suis en préparation d'un album majeur de moi qui sortira au mois de mars. Qui est produit par Binaural Productions, une boîte qui s'appelle Binaural Productions, distribuée par Absilon. Donc, et sur le chemin de cette sortie, je me suis dit, il y a des choses dans le tiroir, pourquoi pas les sortir maintenant, en amont de la sortie du disque qui vient en mars. Donc, au mois d'octobre dernier, on a décidé d'un commun accord avec les deux boîtes, Blanc Musique et Binaural, de faire cette... sortie, qu'il n'y a pas de mini sortie, hein, c'est une sortie quand même, parce que ça en valait le coup. Et donc c'était l'occasion, plutôt que de le laisser dans les tiroirs indéfiniment. Voilà, donc,
Mais est-ce qu'il était déjà vraiment sorti cet album?
Non, pas officiellement.
Moi personnellement, je l'avais passé
Non, pas officiellement. Justement, non, il n'était pas sorti. Et là, il est sur les plateformes, enfin, voilà, il est disponible, on peut le télécharger, on peut l'écouter, le lire, voilà. Donc.
Vous savez quoi, pour donner une idée aux auditrices et aux auditeurs, je vous propose qu'on écoute un deuxième titre, Miles Mode. Ouais. Miles, parce que moi je connais un Miles, mais c'est
Miles Davis. Mais c'est une composition de John Coltrane.
On a entendu Sonny Rollins, mais voilà. Non, on va entendre John Coltrane. Allez. Thank you. Et on n'a qu'un seul mot, c'est yeah.
Yeah, of course.
Miles Mode de l'album Chase of Ouida sur le label Blanc Music et l'album de Jean-Jacques Elanguet qui est avec nous sur le plateau. Pardon, vous êtes bien sur Jazzland à Ligre FM 93.1. Tiens d'ailleurs, Chase of Ouida, ça veut dire quoi? Ouida, c'est qui?
Ouida, c'est le nom d'une ville en Afrique. C'est la porte de non-retour au niveau de l'ancien royaume du Bénin. Quand les esclaves partaient du continent africain vers le nouveau continent, ils passaient par une porte imaginaire par laquelle ils ne revenaient plus. Ils sont restés au Brésil, bien sûr, aux États-Unis. On parle de des Noirs américains. C'est comme ça que s'est fait cette histoire. Donc moi, je suis forcément issu de cette histoire, même si je ne suis pas du Bénin, je ne suis pas forcément Yoruba, je suis africain, donc je n'ai même pas besoin de le dire, je suis. Voilà, donc, et je me suis senti, de témoigner un peu cette histoire, à défaut de faire de la prose, à ma manière, avec du son, de parler des ombres qu'a laissé cette histoire, les ombres de Ouida. Donc le jazz est né quelque part sur le continent, le nouveau continent, mais avec une influence, une grosse influence de la culture africaine quand même. Pour moi, c'était important.
De la négritude
aussi. Voilà. Pour moi, c'était important de marquer un peu, de m'arrêter un peu sur ce point-là, voilà. Donc, d'où le.
Est-ce que c'est le début de ton histoire avec le jazz ou pas? Est-ce que c'est
non, pas du tout. Non.
Kershichep ou je sais pas. Enfin, on peut imaginer.
Non, c'est pas du tout. Bon, j'ai un certain âge maintenant. Le jazz, je suis tombé dedans. J'étais teenager, quoi. J'étais adolescent quand je suis arrivé là-dedans. Je devais avoir, quand j'ai commencé à m'y intéresser, je devais avoir 16 ans maximum, hein. 15 ans à peine. 15-16 ans,
j'étais curieux,
au Cameroun. Voilà, j'étais au Cameroun, j'étais parti de la France puisque je suis né ici, j'ai vécu mon enfance et mon adolescence là-bas et puis je suis revenu après. Donc là-bas, j'ai commencé à écouter, pour commencer, genre Louis Armstrong, Lester Young, que des anciens comme ça, prendre conscience un peu de ces, voilà, Don Byas, arrivé Charlie Parker, j'ai découvert Coltrane, Bill Evans et tout ça. Ah, j'ai dit, ah, ça, c'est ce que je veux faire plus tard. Donc, au moment où je fais, j'enregistre Chase of Ouida, c'est-à-dire il y a à peu près en 2018, là, quand le disque sort. Non, je suis déjà lancé depuis longtemps. Hein. Ça fait pas mal d'années.
Quand on est jeune au Cameroun, qu'on s'intéresse au jazz, et au saxophone,
vous les on n'a avez... pas d'avenir, on n'a pas... aucun avenir là-bas.
Vous les avez... Oui, mais vous les avez tous cités, il y en a que vous n'avez pas cités, c'est Manu Dibango.
On ne peut pas citer tout le monde, mais pour moi, c'est un sage, c'est un oncle, c'est un ami, c'est un frère, c'est un papa. Ah, j'ai passé du temps avec lui
bien,
à Paris, à Paris. Oui. Mais au Cameroun, non, j'étais trop jeune pour l'avoir rencontré.
Et musicalement, il vous a influencé ou pas du tout?
Je ne vais pas dire ça comme ça. C'est un musicien international.
Vous entendez moins chanter que lui.
Voilà, déjà. Mais disons que c'est le père de la musique africaine quand même, aux yeux du monde entier. Donc, sa voix ne peut pas passer inaperçue. Mais donc, je n'ai pas pris son sentier à lui, mais j'étais bien conscient de qui il était et qui il est pour nous tous, pour l'humanité tout simplement. C'est un très grand homme que j'ai eu la chance de rencontrer, de connaître vraiment à Paris. En dehors de la musique, on avait des discussions profondes, des rigolades à table. Voilà, j'ai passé de très bons moments avec lui vers la fin. Voilà, vers la fin. Même musicalement, on a partagé quelques émissions comme ici aujourd'hui, parce qu'il tenait aussi une émission à Africa numéro 1, donc il m'y a invité. Et puis sur scène, on s'est retrouvés quelques fois comme ça. Mais non, je ne suis pas dans son sillon musical, mais j'appartiens à la génération qui a été... Voilà, qui a été initié quelque part par lui.
Alors, Jean-Jacques, on a écouté déjà deux morceaux. Moi, ce qui me frappe, et on doit avoir notre invité de deuxième partie qui va arriver tout à l'heure, qui est batteur.
Oui.
Quand on vous entend jouer, il y a un tel placement rythmique que j'ai l'impression que vous êtes presque un batteur. Vous n'avez presque pas besoin de batterie. C'est un placement rythmique de dingue.
Oh.
Comment on travaille ça?
Rien n'est inné comme ça, hein. Je veux dire que ça se travaille. Déjà, il faut faire ses gammes, prendre le métronome, ne pas avoir peur de travailler d'arrache-pied. Non, rien n'est acquis, c'est practice, practice, practice. Le petit dicton qui dit que parce qu'on est noir, on a le rythme dans la peau, je ne suis pas d'accord avec ça.
Ah non, mais j'allais pas dire ça.
Tous les jours, voilà, il faut écouter des musiciens aussi différents des autres, mais il faut travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire faire des transcriptions. Non, il faut dire que je suis habité par ça et je suis aussi curieux par rapport à tout ce qui est nouveau. Donc, j'apprends, je suis en situation d'apprendre tout le temps.
Alors, justement, dans votre apprentissage, allez, la question chiante et qui fait chier tout le monde, pardon, c'est moi qui embête tout le monde. Vous êtes sur une île déserte et vous avez le droit de prendre qu'un seul disque. Alors, je vous donne le choix entre prendre Sonny Rollins, John Coltrane, Coleman Hawkins... Lester Young.
Lester Young, sans vaciller.
C'est vrai.
Pourquoi? Je vous laisse la réponse, à votre avis. Parce que Sonny Rollins, s'il existe, il vient quand même quelque part d'avoir entendu et écouté Coleman Hawkins et ainsi que Lester Young, surtout Coleman Hawkins. Mais Coleman Hawkins était presque un alter ego de Lester Young. Et Lester Young, c'est comment dire, la sensibilité pure. Je veux dire, c'est le premier improvisateur. C'est le premier improvisateur à avoir vraiment... Parce que déjà, il était batteur. Pour faire le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, il faut savoir que Lester était... Avant tout, quand dans sa jeunesse, il était batteur dans l'orchestre de son papa.
Vous savez pourquoi il s'est mis au saxophone?
Oui, je sais très bien.
On peut le raconter pour les auditeurs.
Non, mais c'est une anecdote. Oui, oui, parce que bon, à la fin des concerts, il passait son temps à ranger les tomes de la batterie pendant que les autres copains
ils partaient avec les filles.
À gâcher, voilà. Donc ça l'a un peu. Bon, il savait pas très bien lire la musique. Il a commencé à se mettre au saxophone. Il a fait pouet-pouet un peu dans l'orchestre. Son père l'a viré parce que il ne savait pas jouer et là il a décidé de revenir en mettant tout le monde d'accord. Il a fait le job et voilà, il est sorti de là, c'est le maître.
Alors moi j'ai une autre question, ça passe tellement vite le temps, j'ai une autre question, c'est de savoir, on a parlé de Chez Abouida, l'intention que vous aviez dans cet album et l'histoire très profonde que vous racontez, très sombre aussi, mais l'histoire de fantôme aussi. Comment vous composez? Alors, est-ce que vous composez au saxophone, au piano,
à la table? Je joue du saxophone, mais j'ai horreur de prendre une idée comme ça au saxophone et de la transformer en musique. Non, je ne fais jamais ça. J'ai dû le faire à mes débuts, mais il y a de cela plus de 50 ans, sur un titre. Et ça ne m'a pas plu. J'ai décidé de ne pas faire comme ça. Après, j'ai appris le piano. Je me sers pas mal du piano pour écrire. Et ces derniers temps, j'écris tout simplement à la table. C'est-à-dire que quand j'ai des choses qui me passent par la tête, des mélodies ou un tableau, ou je vais voir une exposition, quand j'ai une image comme ça dans la tête, je chantonne quelque chose que j'enregistre sur mon téléphone et après j'harmonise la mélodie, je garde la tonalité d'origine et j'écris pour le reste. Aujourd'hui j'écris quand tout le monde dort, au petit matin, entre 4h20 du matin et 9h10.
Dans la Nièvre, non, c'est la Nièvre, vous êtes,
non, dans les Deux-Sèvres.
Dans les Deux-Sèvres, où vous habitez.
Voilà.
Allez, on s'écoute un troisième morceau.
Voilà.
PPN.
Private Phone Number.
Ah, Lester Young avait sa Billie Holiday. Là, vous avez votre PPN. PPN. Voilà, allez, PPN, on écoute. Voilà.
Thank you.
L'émission jazz d'Allegre FM.
Tous les samedis à
17h. Et oui, vous êtes bien effectivement sur Jazzland Allegre FM 93.1 en compagnie du saxophoniste Jean-Jacques Elanguet pour la ressortie de l'album Shades of Ouida sur le label Blanc Music, disponible sur toutes les plateformes.
Oui, Amazon, Deezer, YouTube, j'en passe, toutes.
Alors, sacrée équipe que vous avez là. On peut peut-être rappeler les noms des musiciens qui vous accompagnent?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, à la contrebasse, c'est Manu Marchès, contrebassiste. Donc, à la batterie, Simon Goubert, que je ne présente plus.
Non.
Et au piano, le maître Alain Jean-Marie. Voilà, tout simplement.
J'ai pas souvenir, Isa. C'est une rythmique qui avait déjà travaillé ensemble ou pas? Ou c'est vous qui les avez réunis?
Je pense que je les ai réunis,
ouais, hein, j'avais pas de souvenir,
mais Simon et Alain, je pense pas qu'ils aient joué ensemble à l'époque, mais nous on joue ensemble depuis un moment, hein. C'était il y a 20 ans, on jouait déjà ensemble.
Oui.
Les premiers concerts, voilà, c'était début des années, enfin, c'était 2005-2006 par là.
J'ai lu quelque part que vous aviez un nonette aussi.
Oui, justement, le nonette est un peu l'équipe, un peu la base du projet que je présenterai bientôt.
Ah, c'est voilà. Là que je voulais en venir, effectivement.
Voilà, effectivement, le nonette, le projet s'intitule Jean-Jacques Elanguet N9, lettre, voilà.
D'accord.
N, le chiffre 9, c'est, voilà, nouveau, Jean-Jacques Elanguet, nouveau est arrivé, 9. 9 parce que nous sommes 9 musiciens, et voilà.
Alors,
c'est une renaissance de Jean-Jacques Elanguet, après le Covid, après toutes
et
ces
oui, bien
histoires.
Sûr.
Voilà.
Ça sera des morceaux que vous avez composés pendant le Covid ou
Pas uniquement, mais certains, oui. Disons que le projet est né après la période Covid, voilà. Voilà.
Alors, sans nous spoiler les noms, enfin, sauf si vous le voulez, les instruments, ça sera quoi?
Alors, il y a deux batteries, ce qui caractérise le son de cet orchestre, parce que c'est un orchestre, hein, c'est un large ensemble.
Oui.
c'est le fait qu'il y ait deux batteurs, donc chacun sur une batterie. Donc ils se complètent, ils jouent ensemble. Il y a une basse électrique, il y a cinq soufflants, donc un trombone et des sax qui sont multi-instrumentistes, sauf moi. Moi, je suis mon deuxième instrument.
Vous restez sur le ténor, hein, oui.
Moi, je reste sur le ténor et j'écris pour tout le monde.
Oui.
C'est ça mon deuxième instrument.
La batterie aussi.
Où j'écris pour tout le monde.
Ah,
dans ce groupe, j'écris pour tout le monde, pour le piano, pour tout. Donc, je suis au ténor et je chante un peu. Il y a un trompettiste aussi. Alors quand je dis que je chante, je donne de la voix, mais je ne suis pas chanteur. C'est-à-dire que j'utilise ma voix comme un instrument à l'intérieur d'un pupitre. Voilà.
Donc, d'accord.
C'est plus ça. Il y a du texte, mais j'ai invité des chanteurs. J'ai invité Madame Coco Mbassi, qui vit à Londres, sur un titre. J'ai invité Monsieur Emmanuel Job, qui est quelqu'un qui est dans le gospel. Ici en France, il est du côté de Montpellier et qui a son propre projet aussi.
Et les textes, c'est vous qui les avez écrits ?
C'est moi qui les écris, absolument.
Ah non, vous avez pratiquement tout fait. Combien de temps
j'adore,
de travail ?
J'adore écrire. Combien de temps de travail ? J'ai pris quelques mois pour monter ce projet parce que... Il est né d'une idée que j'avais au départ qui n'a pas abouti. Et puis, petit à petit, je me suis un peu reconstitué comme ça, quelques éléments. Et puis, j'ai retracé le projet comme il fallait. Et en 2 mois, j'ai réécrit de nouveaux morceaux. Voilà, à la table, et entre 4h du matin et 9h10.
Et ça y est, c'est dans la boîte ?
C'est dans la boîte. On peut déjà... Il y a un premier single qui est sorti le 12 décembre. Sous mon nom, le titre du single, c'est RCFA, justement.
Oui,
RCFA, on parlait de ça tout à l'heure. Mais le titre de l'album va s'appeler African Road.
Okay.
Et on le trouve sur toutes les plateformes aussi, ce single-là. Il y est déjà depuis le 12 décembre. Voilà.
Quand l'album est complètement sorti, va complètement sortir, oui. Vous pensez à nous, Jean-Jacques.
Hein. Ah oui, avec plaisir.
Et puis maintenant, vous avez l'adresse.
J'ai l'adresse, l'attaché de presse à votre adresse. Je pense qu'elle va passer par là. Hein.
Absolument, mais ça, c'est sûr qu'on va se revoir. Jean-Jacques, un grand merci.
Merci à vous, merci aux auditeurs.
On rappelle la date du concert, c'est...
La semaine prochaine, le 14 janvier, à 21h30 au Sunside.
Sunside,
à Paris.
Hein, en haut.
Oui, au rez-de-chaussée.
Oui, pas le Sunset. À quelle heure, 21h30 ?
21h30, pétante.
Oui, bon, ça alors là, avec les jazzmen pétant ça alors là.
Je pense que là, on ne se louperait pas, hein, parce que bon, je suis quand même.
Mais vous inquiétez pas, on est patient et vous avez longtemps qu'on vous attend, donc on ne vous loupera pas.
Il paraît que je suis discret, alors je ne me reconnais pas là-dedans.
En tout cas, on sera là. Merci, un grand merci, Jean-Jacques. Notre invité de deuxième partie n'est pas là, mais on va faire découvrir aux auditrices et aux auditeurs son album. Vous restez avec nous ?
Je reste avec vous. Complètement.
Alors, avant de passer à la deuxième partie, je voulais juste annoncer aux auditrices et auditeurs, vous allez voir tourner ça bientôt sur les réseaux sociaux, que l'émission Jazzland va compter un nouveau membre qui va venir nous rejoindre une fois par mois. Sa première sera le 31 janvier à 17h. C'est un petit événement pour nous, pour le monde du jazz, pour la radio, puisque cette voix qui vient rejoindre Ali Greffen, eh bien, tous les amateurs de jazz le connaissent, l'attendent depuis qu'il a quitté le service public, c'est notre ami Alex Dutille, la grande voix, la voix du jazz, qui viendra tous les mois, dernier samedi du mois, présenter une émission sur un thème, je ne vous en dis pas plus, je ne spoil pas, mais qui sera un thème différent, qui sera un peu déconnecté de l'actualité. On attend avec impatience la voix d'Alex Dutille. Alex Dutille, ce nice guy, et ça tombe bien parce que le morceau qu'on va passer de notre invité, qui n'est toujours pas là, s'appelle I'm Nice. Je vous propose qu'on écoute I'm Nice.
Just ask. I've been for the impossible task. Are you moving? Are
Et oui, vous êtes bien sur Jazzland à Ligre FM 93.1. En compagnie, parce qu'il est là,
oui.
Guilhem Flouza a finalement réussi à arriver pendant le morceau. Quel bon timing, puis de toute façon, on avait commencé votre hélicoptère privé
son travail.
Pour la sortie de l'album I'm Nice sur le label Elsteer Music. Et là, on venait d'entendre le titre éponyme. Guilhem Flouza, vous étiez venu précédemment nous présenter Turn the Sun to Green, c'est ça. On a le sentiment dans vos albums qu'il y a une vraie dimension narrative, qu'à chaque fois il y a des histoires que vous racontez, des histoires personnelles et des poèmes, c'est des chansons, mais c'est donc des poèmes très beaux. Et du coup, moi je me demande, parce qu'on vous voit comme, bien sûr comme batteur, comme compositeur, comme directeur artistique sur plein d'autres projets, mais aussi comme écrivain, vous vous situez où ?
Moi j'ai tendance à m'identifier aux choses que je fais et aux choses que je fabrique, et comme je passe un temps limité de ma vie à fabriquer des textes, je me considère pas comme écrivain. Je suis batteur parce que je fais de la batterie quotidiennement.
Bob Dylan disait la même chose, hein.
Je sais, mais je me permets de faire une petite distinction quand même entre Bob Dylan et moi,
oui,
c'est
oui,
gentil.
C'est un peu osé, je reconnais.
Non, par contre, ce qui est sûr, c'est que dans ma en tant que public, j'adore lire et je suis extrêmement touché par la littérature, et j'ai un petit carnet dans lequel quand je lis des livres et qu'il y a des choses qui me touchent, de la même manière que je peux relever des morceaux de jazz que j'aime, je relève des passages d'écrivains qui me bouleversent. Et donc, on peut considérer que ça fait partie des choses dont je m'alimente. Voilà.
Et justement, vous lisez des auteurs français ou des auteurs anglais ?
Les deux.
Ça s'entend, en fait. Ça s'entend, et ça s'entend aussi parce que, je vous pose une question comme ça, c'est qui va peut-être tomber complètement à plat. Vous jouez avec Laurent Koch, et Laurent Koch a travaillé beaucoup avec une chanteuse qui travaillait sur des poèmes anglais. Donc Laurence Alison, et j'en ai déduit que Laurent Koch aussi avait peut-être un amour pour la littérature anglaise, et je me suis dit, ben tiens, peut-être que ça le rapproche de Guilhem Flouza. Je délire complètement.
Ça nous rapproche, si, parce qu'on lit tous les deux des livres en anglais, et c'est Laurent Koch qui, quand j'étais son élève, m'a dit, il faut que tu partes à New York, il faut que tu ailles vivre là-bas pour grandir en tant que musicien. Donc il est responsable du rapport que j'ai établi avec les États-Unis, parce que c'est la littérature anglaise, mais c'est principalement la littérature américaine, je dirais.
Mais ça s'entend, littérature anglophone. Et d'ailleurs, de toute façon, vos textes sont en anglais.
Voilà, ouais.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'équipe, une équipe qui tourne maintenant avec vous depuis 10 ans, une dizaine d'années ?
Tout à fait. Alors l'équipe, c'est Isabelle Serling à la voix, c'est Laurent Koch au piano, Ralph Lavital à la guitare, Desmond White à la contrebasse. Et il y a deux invités, Maxime Sanchez au clavier et Sullivan Fortner sur un titre aussi.
Mais alors pourquoi ?
Parce que parce que c'est des gens que j'aime déjà, que c'est des personnes inventives avec qui j'ai envie de jouer, comme un enfant a envie de jouer. Aujourd'hui c'est une journée de neige. Maxime Sanchez et Sullivan Fortner, c'est des personnes avec qui me donnent envie de jouer, d'essayer des choses.
Maxime Sanchez, je vois bien le truc, parce que sauf erreur de ma part, Maxime Sanchez fait notamment partie du groupe Flash Pig, dans lequel vous jouez quand même un rôle.
Alors, Flash Pig, j'ai écrit des textes pour eux.
Voilà.
J'ai écrit leur dernier dossier de presse, donc j'ai écrit des trucs pour eux. Et on a et le trio de Maxime Sanchez aussi, qui existe. Et dans ce trio, je joue. Voilà. Mais dans Flash Pig, c'est surtout que c'est des amis très proches, c'est des gens que j'adore. Donc, c'est
aussi
comme
on
ça
les adore.
Bah ouais, ils sont formidables.
Ils ont leur ronde serviette, ici.
Tout à fait.
Et Sullivan Fortner, alors pourquoi ?
Parce que c'est un génie.
On est d'accord.
Parce que c'est un génie absolu. Et que,
on est d'accord.
Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de proposer des collaborations qui mettent les musiciens dans des situations inhabituelles. Et sur le morceau Sometimes a Man, Sullivan Fortner dialogue avec Laurent Koch. En fait, la piste était déjà enregistrée. Et Sullivan a enregistré par-dessus le piano de Laurent. Et donc il fait une partie de piano qui est très légère et qui montre à quel point il a un sens de l'orchestration et une oreille extraordinaire, parce qu'il réussit à faire comme s'ils avaient été ensemble dans le studio, quoi. Alors que Laurent a fait sa prise sans savoir qu'il y aurait plus tard une deuxième voix de piano.
Je vous propose qu'on écoute, malheureusement on ne va pas pouvoir écouter les morceaux en entier, mais on écoute, parce qu'on va finir par Sometimes a Man avec Sullivan Fortner, mais là je voudrais qu'on écoute un morceau sur une tonalité un peu différente, Hate is Fun. On ne va peut-être pas le passer en entier, mais déjà rien que pour l'intro, allez, on y va.
Thank you. I snatch your screen at teacher, to teacher, to teacher, to teacher. I screen it cause I like to, like to, like to.
À l'antenne, c'est bon, voilà, un petit aperçu de Hate is Fun, c'est drôle comme titre.
Ben, c'est un titre qui correspond un petit peu à l'époque, parce que je trouve que c'est un titre ironique, mais oui. On voit à quel point il y a des gens qui considèrent ça jouissif d'être haineux.
Bien sûr, on le voit tous les jours sur les réseaux sociaux.
On le voit tous les jours sur les réseaux sociaux, et c'était une façon de dénoncer ça indirectement, en fait.
Une tonalité
le plaisir
un peu
qu'on
plus,
prend à troller.
Un peu plus rock sur ce morceau.
Ça vient d'un, la ligne de base vient d'un pianiste de stride, Donald Lambert. Ouais, donc, c'est sources sont multiples.
C'est cohérent. On parlait de l'atmosphère un peu littéraire. Moi, dans l'album, à un moment donné, je me suis laissé aller dans un univers à la David Lynch.
Mm-hmm.
Non
ah, ouais. J'adore. Bah, moi, Angelo Badalamenti, le compositeur de Lynch, je trouve que c'est magnifique ce qu'il fait. Ensuite, j'aime bien l'ironie et l'étrangeté de Lynch dans Twin Peaks. C'est le truc un peu menaçant.
Oui, ouais, et puis il y a un côté aussi... moi, je trouve qu'il y a... ne serait-ce que votre pochette qui est très lynchienne, où on vous voit...
Oui, c'est vrai que quand j'ai montré cette pochette à mes copains, ils disaient mais qu'est-ce que c'est, mais pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, c'est censé faire un peu peur. Ça fait un peu flipper ton truc.
Vous pouvez expliquer aux auditrices, auditeurs, parce que
alors en fait, sur la pochette, je suis sur un cheval de manège tenant une glace sanguinolente qui dégouline sur mes doigts, et j'ai une espèce de rictus un peu à la Joker, quoi.
C'est ça. Donc c'est un univers un peu fantasmagorique, mais à la fois premier, deuxième, troisième, quatrième degré.
Oui, et puis c'est une façon de dialoguer avec le titre, c'est-à-dire le titre, ça dit je suis sympa, mais derrière tout grand sourire, y a toujours une menace, quoi.
Ouais, je l'avais pas, c'est marrant, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai, vous avez forcément raison, bien sûr. Guilhem, juste parce que le temps passe très très vite, rappelez la date de concert.
Alors, samedi 10, on est au Maquisard à Emet, et à Paris, la date de sortie, c'est le mardi 20 janvier à la Scala, boulevard de Strasbourg, à Paris, à 20h30. Voilà.
La Piccolo.
La Piccola Scala.
La Piccola, pardon. La Piccola.
Mais c'est plus facile à trouver la Scala sur Internet.
Oui,
donc,
oui,
et c'est au même endroit.
Monsieur. Et ça sera toujours la même équipe.
Ce sera exactement la même équipe, moins Sullivan Fortner, quand même, malheureusement.
Et oui, c'est vrai qu'il pas tout. Il a pas mal de.
Mais
de
Maxime Sanchez sera là.
J'ai vu que vous jouiez aussi des claviers aussi vous-même. Hein.
Alors je compose sur les claviers et sur l'album j'ai fait quelques pistes de claviers, mais je me risquerai jamais ça à faire devant des gens.
Dans un concert. comment vous écrivez vous? J'ai posé la même question à Jean-Jacques. C'est...
Moi je commence par les paroles.
C'est
la prosodie en fait, c'est le rythme des paroles qui dicte ensuite comment la chanson évolue. Voilà. J'essaye de partir le plus possible du rythme du texte.
Et Isabelle Sorling pour vous c'était évident? Pour servir vos textes.
Ah bah, c'est-à-dire que là, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Il y a une confiance. C'est très très précieux de connaître quelqu'un qui est prêt à vraiment se mettre dans votre peau, à écouter vos textes et qui est aussi dépourvu d'ego, d'égoïsme, de narcissisme qu'Isabelle. Donc c'est une personne miraculeuse. Mais pour beaucoup de projets d'ailleurs, pas seulement le mien. Ici.
Alors c'est drôle, on va conclure là-dessus. Mais vous êtes tellement intégré à la scène du jazz, mais quand on écoute votre album, c'est plus un pop jazz, c'est plus, enfin, je le classe un peu moins. Qu'est-ce que non, en fait, la question n'est pas très intéressante, mais c'est sinon on n'en sort jamais.
Non,
mais c'est surtout
éternelle question,
savoir. Ouais. Vous, en ce moment, vous écoutez quoi? Là, en venant vous écouter, nous vous étiez
pressé. Alors moi, en ce moment, j'écoute les préludes de Chopin. Je suis assez obsédé par les préludes de Chopin et j'ai écouté un peu... Donc c'est ça que j'écoute.
Ok, Guilhem, merci, il est déjà
merci
l'heure
beaucoup pour
de,
votre accueil.
De se quitter. Je suis désolé, ça fait un petit peu court. On va se quitter, nous, avec Sometimes a Man. Merci Armand à la technique, je fais un
merci
grand
Armand.
Geste de la main. À suivre Lusitania. La semaine prochaine, vous retrouvez Jazzland avec Noé Huchard et Cécile Enricia. Et puis, vous pouvez nous retrouver en rediffusion le mardi à 20h ou en podcast sur le site d'Aligre FM. Et puis, n'oubliez pas ce rendez-vous le 31 janvier 17h, le retour d'Alex Dutil sur les antennes. On se quitte avec Sometimes, sur les antennes d'Aligre FM, on se quitte avec Sometimes a Man. Guilhem, un grand merci. Désolé
merci,
pour ce temps très court.
Toi,
Jean-Jacques, un grand merci. On rappelle la date du concert, le 14 janvier au Sunside à 21h30. Précise. Allez, on se quitte avec Sometimes a Man. On se dit la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et faites bien attention à vous. Ciao.
Aligre FM 93.1